20h01 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. D'autant plus ravi que oui, messieurs, dames, le SCO se rapproche de la Ligue 1. Et oui, on va revenir sur cette belle performance des Angevins qui ne sont plus qu'à un match vendredi soir d'être de retour dans l'élite du football français. Ce sera très probablement une belle fête dans les rues d'Angers, et puis surtout au stade Raymond Coppa. Désolé pour l'émission de la semaine dernière qui n'a pas eu lieu, mais on est tous de retour autour de la table, une table bien complète. Mathéo n'est pas là, mais on lui passe quand même le bonjour. À ma gauche, toujours fidèle au poste, Faustin. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah ça va toujours super. J'ai pas eu de match ce week-end, mais j'ai mon dernier match de saison qui arrive. Le week-end prochain.
Encore des enjeux dans cette saison, pas ?
Faudrait qu'on gagne et que l'équipe qui est première perde pour qu'on puisse finir champion, mais c'est mal embarqué.
C'est mal embarqué. Bon, c'est une bonne saison pour toi ? Bonnes stats ?
Une blessure
évidemment.
Qui m'a fortement affaibli dans mes stats, mais c'est pas grave, on est toujours là.
Le futur OMB, c'est peut-être toi.
On y croit
toujours. À ma droite, Clément est également là. Salut Clément, comment ça va ?
Salut Alex, salut à Tours. À tous.
On sent que Tours en jeu aussi, hein, y a pas de souci là-dessus.
Un retour, déjà un retour qui commence mal. Non, mais
ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu.
Ouais,
enfin,
ça faisait
entendu.
Un mois que j'étais pas venu. Donc mon grand retour pour possiblement la montée du SCO, comme tu le disais.
Ouais, c'est une très très belle occasion. Je vais faire. Attends, Timo, est-ce que ton club ne serait pas un match d'une montée en. Enfin, historique, je sais pas. Mais
non, pas en R2 historique. Ils sont descendus il y a un an.
J'ai entendu parler de ça.
Donc oui, ils jouent le match dimanche là. S'ils gagnent, ils sont sûrs de monter et allez tous au stade. Faustin,
voilà, je fais
aller au stade.
je fais un peu de pub.
Non, oui, c'est sûr.
En tant qu'avrier, ça me fait un peu mal de faire la pub à Montreuil, mais bon, je me dois d'être professionnel. N'est-ce pas, Faustin? T'as pas envie, toi, non plus, d'aller
non, j'arrive pas au stade.
Mais on vous encourage, chers auditeurs, à y aller pour ceux qui aiment bien le football régional, c'est ça? Donc, c'est pour l'action R2.
Ouais, c'est ça.
Très bien.
Bon, après, si ça peut te rassurer, Faustin, j'ai perdu 5-4 sous Kelly en menant 4-3 à une minute de la fin. Bon, j'en parle pas.
Ça se chambre entre les deux. C'est pas mal. Micro rouge face à moi. Il est arrivé. Un poil en retard, non, même pas. Cédric est avec nous. Salut Cédric, comment ça va ?
Bah écoute, plutôt bien. La reprise aussi, ouais. Tout le monde. Après la coupure, là, à peu près 15 jours, bon.
Oui, c'est ça, ça fait du bien.
Ouais, enfin, ça a été chargé quand même.
Oui, au niveau du sport, bien sûr.
Au niveau du sport, ouais.
Pas mal de choses.
Ce week-end, c'était plus repos quand même. Après le gros week-end, pour moi, c'était 15 jours.
Ouais.
Le PLE... La WWE, forcément à Lyon.
Évidemment. D'ailleurs, si tu veux, tu pourras en reparler pendant quelques temps tout à l'heure.
Ouais, tu veux dire qu'on a tout déchiré. Hein.
Tu étais à Lyon ou non ?
Non. À mon grand regret.
Ouais, t'as pas réussi à avoir de place ?
Bah, quand tu sais que les places les moins chères sont vendues en 15 minutes.
Aïe.
Et que toi, tu bosses.
Oui, c'est compliqué.
C'était compliqué.
Bon, écoute, j'espère que t'as quand même passé un bon moment devant ta télé. Donc voilà, c'est vrai que c'était un bel événement à suivre et pourquoi pas tu nous en parleras un petit peu dans l'émission. Et puis enfin, j'ai présenté notre quatrième chroniqueur. Il va nous rejoindre pour la fin de saison et jusqu'à peut-être même l'année prochaine. C'est Florian qui est avec nous. Salut Florian, comment ça va ?
Bah ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir en tout cas et ravi de faire partie de Génération Sport.
Et écoute, tu es évidemment le bienvenu. Tu arrives à point nommé hein, pour l'actualité angevine. Voilà pour ça. Et puis, les auditeurs vont apprendre à te connaître au fil des émissions. Je m'excuse par avance, j'ai un petit peu d'asthme en ce moment. Vous l'avez peut-être remarqué. Donc, pardonnez-moi s'il y a un petit peu des, un temps de parole saccadé. On va donc présenter le sommaire de l'émission. On va parler évidemment de ce qui s'est passé à Annecy pour le SCO avec cette soirée un peu historique qui va faire peut-être monter le SCO en Ligue 1. On fera également un petit point sur le SCO en balle qui est peut-être proche de se maintenir en Pro League. Et puis au niveau du sport international, on reviendra longuement sur le football, le départ d'Mbappé et puis l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Un petit point aussi sur le basket avec toi, Faustin. Et puis aussi un petit mot de tennis. Pourquoi pas? Et puis pourquoi pas du cyclisme, du catch, les JO et le rugby. Oui. Clément, tu nous feras un point sur le top 14. Avant de parler du SCO, je vais reprendre un peu mon souffle. Et puis je vais exceptionnellement laisser Faustin nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il y a eu des grosses infos donc du côté de Cholet et puis du côté d'Angers. Malheureusement, tu vas nous raconter tout ça.
Ouais, je vais démarrer par ce qui est triste, j'ai envie de dire, c'est du côté d'Angers, le AB qui a perdu son dernier match de saison face à Fos-sur-Mer sur le score de 75-72, une défaite qui fait descendre les Angevins de Pro B vers la Nationale 1. Seulement 2 ans après l'avoir quitté, ils ont quand même réussi à gagner la Leaders Cup la saison dernière. Et, cette saison, ça a été vraiment plus compliqué, surtout dans la première partie de saison où les Angevins ont gagné quasiment aucun match.
Ouais. Ça a été très compliqué. Ouais. Mais ils ont bien remonté.
Ouais, ils ont réussi à remonter, on y a cru. Bah, jusqu'au bout, hein, parce que ce match était décisif pour les deux équipes, pour Angers et Fos-sur-Mer. Et c'était jusqu'au bout, c'était un match très agréable à regarder. Triste pour sa fin, mais.
Ouais, que t'as suivi, du coup?
Ouais, j'ai pu le suivre. Ouais. C'était en direct sur la LMB TV.
Et une issue qui est quand même triste.
Ouais, bah ça fait mal au cœur de les voir descendre après s'être accroché autant dans la saison, parce que très tôt on a cru que c'était fini pour eux, et finalement ils ont réussi à nous prouver le contraire. Ça annonce peut-être quand même du bon, parce qu'ils partent pas sur une si mauvaise dynamique que ça, et peut-être pour une montée qui pourrait arriver assez vite si le club ne se fait pas trop détruire de l'intérieur, je l'espère.
Oui, on espère qu'il n'y aura pas trop de départs, de choses comme ça. Tu parlais la fois, c'est vrai que des retombées économiques, de la santé du club. Bon, cette relégation, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Si?
Logiquement, si, c'est mieux.
Oui, ça coûte moins cher d'être en.
Déjà, tu sais très bien que tu as certains joueurs, tu pourras pas les conserver puisque tu pourras pas garder les mêmes salaires.
Ouais.
Donc, en soi, pour la santé financière du club, ça va faire du bien. Mais le problème, c'est, il va falloir aussi reconstruire. Un projet peut-être un peu plus sérieux, parce que là, tu perds ton... Enfin, quand tu libères ton entraîneur à quelques jours de la fin du championnat, déjà, c'est qu'il y a un problème en interne.
Bah oui, le coach a voulu être libéré, quoi.
Oui, mais bon, généralement, tu le lâches pas, même si... C'est très rare quand même. Enfin là, ça sort un peu de nulle part, tu vois, cette décision quand même. Même si depuis, bon, on a eu un peu plus d'infos, mais rien que ça prouve que, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses en termes de politique, justement, à revoir pour la saison prochaine, que ce soit sportif ou extra-sportif. Ouais. Hein. Ça va être... Mais après, c'est un peu l'histoire de ce club. Hein. Tu regardes, ils font souvent le yo-yo, hélas.
Ouais. Hélas, effectivement, ils avaient déjà connu la Pro B quand c'était à l'époque l'ABC, je crois, c'est ça?
L'ABC, ouais.
Angers Basket Club. Mais voilà, en tout cas, ils sont à un niveau peut-être qui leur correspond un peu mieux. Même si la Pro B leur allait très bien, évidemment, puisqu'il y a eu ce premier titre.
Ils avaient réussi l'année dernière.
Exactement, ce premier titre de l'histoire du club. Donc voilà, un peu triste hein, pour devoir Angers en N1. Mais bon, ça nous rappelle des bons souvenirs, puisqu'on avait commenté les matchs à l'époque. Et puis bah, tu vas nous redonner le sourire peut-être avec une autre équipe de basket du Maine-et-Loire, c'est Cholet qui a bien terminé sa saison.
Bah ouais, c'est ça, après avoir vaincu Monaco, leader du championnat, puis Chalon, les hommes de Laurent Villa finissent 7e de Betclic Elite et décrochent ainsi leur place pour les playoffs où ils affronteront dès demain Paris Basket. Le match 2 aura lieu lui samedi à la Mairie. Cette qualification en playoff est aussi synonyme de qualification en Coupe d'Europe pour l'année prochaine pour les Choletais.
Et on ne sait pas encore laquelle.
Non. ça reste à définir. À mon avis, ce sera l'Eurocup.
L'Eurocup?
Ouais.
Ok. Bah, pourquoi
pas, ça, voilà, oui, à mon avis.
Voilà. Je crois qu'en plus, le système a changé. Hein. C'est au mérite maintenant, justement, ouais, ceux qui sont qualifiés en play-off.
Ouais, c'est différent. C'est compliqué aussi.
Bref, on va pas rentrer dans les détails. Bon, mais en tout cas, une bonne nouvelle, hein, évidemment, pour Cholet Basket. On va...
Continuité hein, depuis des années.
Bah, c'est vrai, c'est leur troisième saison de suite en play-off pour Cholet. Donc, c'est plutôt pas mal. On parlait la dernière fois de souvent des yo-yo qu'il y avait pendant la saison. Cette année, ça a été encore plus le cas en plus. Mm. Avec des, voilà, des séries, des bonnes séries, des mauvaises séries. Donc voilà, ça reste quand même de la performance.
Et puis un parcours quand même pas si mauvais que ça en Europe cette année. Moins bien peut-être que l'année dernière.
Bah oui, c'est sûr.
Mais... c'était l'année dernière, la finale.
Oui, ouais. Ça.
Ils sont allés jusqu'en huitième, il me semble.
Ouais.
Et ils se sont fait sortir.
Et dernier point aussi, oui, Laurent Villa qui va quitter donc le club en ayant connu donc trois saisons de suite en play-off, ce qui est vraiment pas mal. Mm. Et on comprend pas trop comment Cholet n'a pas pu mettre les moyens pour.
Ouais, c'est dommage.
Pour le prolonger, mais bon, c'est comme ça. On va s'attaquer maintenant au gros dossier de l'émission. Et oui, le SCO d'Angers. On va remonter déjà un peu dans le temps. Après le succès à domicile samedi 4 mai dernier contre Pau, le SCO avait réussi à grappiller 2 points sur Saint-Etienne, qui restait cependant deuxième grâce à une meilleure différence de but. Vendredi soir, le multiplex pour l'avant-dernière journée de Ligue 2 se révélait donc décisif pour cette fameuse montée en Ligue 1. Je vais donc vous raconter la chronologie de cette soirée magique pour l'équipe d'Alexandre Dujeu. Alors, au bout de 20 minutes de jeu, Annecy va d'ores et déjà trouver la faille au Parc des Sports avec une ouverture du score de Demoncy oublié par la défense angevine sur un centre de La Rose. 18 minutes plus tard, Saint-Etienne ouvre la marque de son côté à domicile contre Rodez, et à ce moment-là les Stéphanois sont deuxième avec une différence de but largement favorable et a donc provisoirement un pied en Ligue 1 si le score en reste là. En difficulté sur la pelouse d'Annecy, le SCO n'y arrive pas, mais c'est dans ces moments-là qu'on rêve d'un coup du sort pour sortir de la tête de l'eau. Et à la 41e minute, Pierre Capel, scoïste depuis 2015, prend ses responsabilités et inscrit un magnifique coup franc à 25 mètres des cages adverses. Ce but sauve les espoirs angevins juste avant la pause. Pourtant, rien à signaler sur la deuxième mi-temps, ni à Geoffroy Guichard, ni au Parc des Sports d'Annecy, jusqu'aux 10 dernières minutes de jeu. 79e, Rajot égalise pour Rodez, grâce à une reprise de volée contrée par la défense des Verts. Retour à égalité au classement entre Angevin et Stéphanois. Nous sommes alors à la 90e minute, lorsque l'homme providentiel du SCO enfile une nouvelle fois son costume de sauveur. Loïs Diony se présente à l'entrée de la surface annecéenne, crochette son vis-à-vis et enroule une frappe à ras de terre qui vient terminer sa course au fond des filets. Le SCO l'emporte 2-1, match nul confirmé entre Saint-Etienne et Rodez. Explosion de joie en Savoie pour les Noirs et Blancs qui sont allés chercher cette 20e victoire de la saison, le couteau entre les dents. Désormais deuxième de Ligue 2 avec 2 points d'avance sur le club du Forez. Les Angevins doivent absolument gagner vendredi à Raymond Coppa pour remonter officiellement dans l'élite du football français. En face se dressera une équipe de Dunkerque maintenue, qui n'a plus rien à jouer mais qui réalise une belle année, 9 ans. Après la montée obtenue contre Nîmes, le SCO peut retrouver la Ligue 1 dans une très belle ferveur. Voilà pour cette soirée exceptionnelle et inattendue, surtout un enchaînement de journées, puisqu'on en avait parlé il y a 2 semaines, on n'était pas forcément positif sur le SCO, on voyait plutôt la route des playoffs, et puis finalement, en 2 journées, le SCO a renversé la situation. Saint-Etienne a perdu beaucoup de points et nous voilà désormais aux portes de la Ligue 1 si, je le rappelle, on vient s'imposer contre Dunkerque. Messieurs, votre sentiment après ces 2 journées, ce retournement de situation assez inattendu, Clément?
Au final, le SCO a gagné les bons matchs au bon moment, parce que Saint-Etienne fait quand même 2 nuls et le SCO en a profité en gagnant 2 fois, certes avec des victoires qui sont peut-être pas très méritées, mais qui sont très 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 importantes pour cette montée. Franchement, je les vois pas trop flancher face à Dunkerque qui n'a plus rien à jouer, mais sait-on jamais. J'ai pas envie de porter la poisse. Mais j'espère une victoire, que je puisse rentrer sur le terrain et fêter ça.
Tu seras au stade?
Oui, je serai au stade.
Incroyable ça. Mm. Bah, tu vas vivre un truc incroyable.
Ouais. J'espère.
Bah, pour le coup, moi, j'y étais justement il y a 9 ans, en 2015. C'était complètement fou. Donc, tu vas peut-être fouler la pelouse derrière mon coup.
Bah, je l'ai déjà foulé.
Si ça se passe bien. Ah oui, t'as fait le fameux challenge.
Ouais, mais je l'avais raté le penalty. Donc en plus, c'était contre Saint-Etienne. C'était Angers Saint-Etienne en Ligue 1. Mais
ça va être mieux.
On va pas trop en reparler.
Faustin, c'est quoi ton sentiment?
Tout simplement la dalle angevine.
Voilà.
C'est ça. Personne ne disait qu'on allait réussir à revenir dans ce championnat, enfin à revenir à la deuxième place.
Ouais.
On était quand même là dans le championnat, et finalement, les Angevins qui ont su prouver le contraire avec cette grinta qui les ont animés et voilà, avec des buts dans les dernières minutes qui nous ont sauvés. Et c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer.
C'est magnifique. C'est vrai que cette équipe, elle est. Elle n'était pas forcément favorite, elle a eu des problèmes dans le jeu, dans la saison, mais on a un sentiment qu'elle a une hargne et un état d'esprit qui est génial, quoi.
Ouais.
C'est vrai que...
Bah, on verra bien.
On verra bien.
Ouais, non, parce que moi, je leur fais pas du tout confiance.
Oh là ! Attention.
C'est pareil au début de l'année. Hein.
C'est vrai.
Ouais.
Il reste dans sa ligne. Hein.
Et moi, je comprends pas quand tu vises la Ligue 1. Tu dois pas à chaque fois concéder l'ouverture du score.
Ouais. Et
là, tu regardes récemment, c'est ça. C'est principal. Match en match et on court après le score à chaque fois.
Donc, mais on arrive à se relever.
Ouais, c'est ça, on est en train de le faire quand même.
Ouais, mais là, pour un match qui va compter pour rien du tout, du côté de Dunkerque, ils vont sûrement, eux, jouer à fond.
Bah oui, justement.
Et bah juste.
C'est tout bénef.
Je suis pas sûr. Quand tu vois les performances qu'ils nous font, je trouve que moi, attention. Ouais, pour moi, ouais, c'est Saint-Etienne a plus d'expérience dans les.
Ah oui, Saint-Etienne, c'est pour ça. Non, je rigole, c'est vrai. Rigole. T'aimerais faire monter les deux, on peut le dire.
Bah, de toute façon, après.
Évidemment, tout est possible.
À voir qui va jouer les playoffs, mais Saint-Etienne a moyen de remonter.
Oui, bien sûr.
Il y a les playoffs.
Tous les moyens, oui.
En tout cas, et plus la stabilité, je pense, c'est l'équipe pour encaisser ces matchs-là que le SCO.
Bien sûr.
Par contre, si on va en playoffs, ça serait compliqué. Bah,
c'est ce qu'on a tous un peu dit.
Ouais.
Florian, ton sentiment sur cette saison, cette très belle saison du SCO, t'as un peu suivi, justement?
Oui, bien sûr. Mais je t'avoue que je m'y attendais pas du tout.
Ouais.
Je m'attendais pas du
un
tout,
peu
à,
comme tout le monde ici autour du plateau.
À une saison pareille du SCO parce que. Avec la saison en Ligue 1 l'année dernière, la descente, tu te dis que cette équipe-là, elle reste un peu quand même malade, même s'il y a eu un renouveau dans l'effectif. Mais tu te dis quand même que ça va forcément être compliqué. Et puis tu vois la belle série sur la première partie de saison qui est quand même... Et c'est ce qui les sauve aussi, c'est ce qui les met dans cette position-là à la fin de l'année.
Ouais.
Mais c'est vrai que je serais plus confiant sur le SCO dans une montée en Ligue 1 directe que par un passage dans les barrages. Dans les équipes qui peuvent potentiellement aller en barrage, c'est celle dont j'ai le moins confiance, en fait, le SCO. Parce que quand tu regardes ce qu'il y a autour, enfin, même Rodez qui est sur... pour eux, c'est un miracle d'être là, parce qu'au vu de la saison dernière aussi, c'est pareil. Hein, Rodez, c'est une équipe qui, normalement, devrait même pas être en Ligue 2 parce qu'il y a eu plein de soucis avec le repêchage et tout. Donc tu vois Rodez, Paris FC ou Saint-Etienne dans ces équipes-là pour le barrage de Ligue 2.
Il y a Caen qui est encore en lice
bien évidemment, mais pour l'instant les trois équipes potentiellement barragistes, bah, c'est celles dont j'ai cité. Et c'est vrai que le SCO, j'aurais un peu plus peur dans ces barrages-là. Et en plus c'est vrai que c'est un système qui est un peu terrible pour les clubs de Ligue 2 parce que ils doivent s'entretuer entre eux avant.
Exactement.
Et tu te retrouves à jouer un match aller-retour face à une Ligue 1
et avec le retour qui est dans la Ligue, enfin
le retour en plus chez le stade de Ligue 1 et trois jours après alors que toi tu t'es enfilé deux matchs avant.
C'est très rare de voir notamment le cinquième notamment
ouais,
Ligue 2 qui doit jouer son premier match à l'extérieur contre le quatrième, qui doit ensuite jouer à l'extérieur contre le troisième.
Ouais.
Et après, voilà, il y a cette potentielle confrontation contre la Ligue 1.
C'est la débilité de ces playoffs, hein, qui n'ont pas lieu d'être.
Les barrages, pourquoi pas, mais c'est vrai que les playoffs, ça rallonge la saison, alors que bon,
ouais,
il n'y a peut-être pas lieu d'être.
Je pense que tu peux faire comme en Allemagne, il me semble, où tu as juste la double confrontation entre le troisième de Bundesliga 2 et...
Je crois que d'ailleurs c'était les premiers
oui,
qui étaient mis en place au début.
Ouais. Bah, quand Saint-Etienne est descendu au profit d'Auxerre, c'était comme ça.
Ouais.
Auxerre, ils avaient fini troisième, ils avaient joué directement contre Saint-Etienne.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'était monté.
Oui, mais donc c'est vrai que c'est pas mal. Bon, on verra ça. Mais c'est vrai qu'autour du plateau, on était plutôt négatif sur les playoffs. Moi, en tout cas, c'est mon pronostic. Je les voyais plutôt faire playoff. Enfin, évidemment, on dit ça une fois qu'on savait qu'ils allaient jouer les premiers rôles. On dit pas ça au début de saison. Mais et qu'on allait aller en playoff et qu'on allait perdre en playoff. Voilà, on a peut-être pas confiance en notre Josco. Cédric, tu vois pas vraiment le SCO monter?
Moi, je reste persuadé qu'ils ont pas les reins pour monter.
Ah, ça me fait mal.
Alors, est-ce que tu dis ça par rapport à la suite, si jamais ils montent, ou est-ce que vraiment c'est sur ce match-là?
À maintenant, il y a la suite, ouais.
Ok.
Pour oui, moi, c'est sûr que.
Parce que la suite, on pourra peut-être en parler peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient faire en. Moi aussi, pareil, c'est quelque chose que j'ai dit dans l'émission plusieurs fois, c'est qu'est-ce qu'on vient faire en Ligue 1? Est-ce qu'on vient avec des moyens, entre guillemets, en tout cas avec un projet intéressant pour rester? Ou est-ce qu'on vient juste pour faire bonne figure et refaire l'ascenseur?
Après, faut pas se le cacher, si on monte, ça va être vraiment compliqué la semaine prochaine. Bon, non, l'année prochaine. L'année prochaine, parce que le SCO, là, ils ont peut-être une très bonne équipe de Ligue 2, mais en Ligue 1, ça va être vraiment compliqué, il va falloir hausser le niveau de jeu.
Ouais, c'est clair.
Faustin, un petit mot de la fin sur le SCO?
Bah, quoi qu'il en soit, ce serait une bonne saison du SCO, parce que tout début de la saison, on disait un top 10, super saison du SCO.
Alors,
vu comment on a commencé, en plus, faut pas l'oublier. Hein,
ouais, on commence pas forcément bien.
Ouais, en plus, ouais, c'est ça.
Bah, ici, autour de la table, personne ne pronostiquait monter. Top 10 au mieux.
Champion d'automne, même champion d'automne.
En tout cas, Faustin, s'il y a des derbies l'année prochaine, n'y va pas. Parce que cette année, on rappelle, t'as vu deux derbies.
Ouais,
bon. Et il y a eu aucune victoire.
J'irai pas faire les déplacements à Nantes, de toute façon.
C'est un peu loin. Ouais, voilà. Bon, écoute. Tu verras le SCO quand même.
Oui, évidemment.
Où que tu sois en France.
Exactement.
Oui. On gardera un œil sur le SCO. voilà pour le SCO, une grosse page évidemment. Messieurs, alors tu sais quoi, je vais aller vous donner vos pronostics, même si je pense que du coup on a un peu chacun une idée de qui va dire quoi. On va dire le score exact du match pour avoir un peu de suspense, vu qu'on est très bon pronostics dans l'émission. Clément, tiens, on va commencer par toi.
2-0 pour le SCO.
2-0 pour le SCO.
Un clean sheet pour terminer.
Les buteurs, par exemple, tu mettrais qui là?
Je mettrais El Melali, parce qu'il a pas marqué depuis longtemps. Et je pense qu'il est capable de mettre un but. Et Le Paul. Le Paul, je l'aime bien. Le Paul qui rentre
le but du break.
Ouais, et but de la tête.
Faustin.
J'irai sur un simple 1-0. 1-0, but de Dieu.
Clinique. Voilà.
Classique.
Un classique dans la saison. Cédric!
Tu peux faire
ce que tu veux.
Forcément que je veux la victoire quand même du SCO, mais je vois pas le gros match avec un gros scénario, un simple 1-0. Et s'ils ouvrent le score derrière, faut qu'ils bétonnent. Point barre, tant pis.
Oui, voilà. On met 6 défenseurs, on s'en fiche. On fait rentrer Clément, on s'en fout. Donc, tu disais.
Un simple 1-0.
Ok, très bien. Florian?
Moi, je vois un match nul.
Match nul? Oh!
Ouais, je vois un petit 1 partout.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne? D'accord.
Contre Quevilly qui est 19e?
Possible.
Ah ouais.
Tout est possible.
Pour une last dance, pour Quevilly, Rouen, en Ligue 2.
Bah oui, voilà.
Non, alors, c'est jamais en plus devant leur public. Allez.
Ouais, bah oui, parce qu'ils sont sûrs de descendre, Quevilly.
Bah, ils sont sûrs de descendre.
Ça ferait un bon scénario.
Moi,
je pense, je dirais 2-1. Et justement, un scénario un peu fou où on perd 1-0, comme tu disais, c'est vrai qu'on se fait souvent mener, bah, on va rester dans la continuité. Et puis 2-1, buteur. J'aimerais bien aussi qu'il appelle encore une fois pour la symbolique. Et après, Abdelli ou. Ouais, je sais pas.
Abdelli, c'est le
Paul. Mais le Paul, je sens bien, c'est un bon chrono, le Paul.
Ouais.
Le Paul. Bon, on va pas faire de pub pour les paris sportifs, mais en tout cas, voilà. Ceux qui veulent écouter nos pronoms, on verra simplement si on a bon la semaine prochaine.
Non, on est trop mauvais là-dessus.
Oui, bah, de toute façon, on va pas vous dire de mettre de l'argent là-dedans, puisqu'on est nous-mêmes pas très bons.
N'oublions pas Copenhague.
Oui, n'oublions pas Copenhague, évidemment. Faustin, tu vas nous sortir à
chaque fois. Évidemment.
Évidemment. Bon, voilà, on va refermer cette page foot avec le SCO et on va maintenant parler de l'autre SCO, le SCO Handball, qui a gagné. Et oui, c'est la première fois depuis le 10 novembre 2023. Et oui, presque 6 mois, hein, sans gagner pour le SCO Handball, qui s'est imposé il y a maintenant 10 jours de ça contre Cournon, 29-25. C'est actuellement la trêve internationale. Et le prochain match, ce sera le vendredi prochain contre Tremblay. Ce sera donc le dernier match de la saison. Pas mal d'infos, oui.
Désormais, ils sont relégués.
Alors, sportivement, oui. Ah, et oui, j'allais y venir. Le président a notamment annoncé que le maintien administratif était fait à 98% en fonction des différents dossiers que peuvent gérer la Pro League. Pour l'instant, le SCO va pouvoir rester en Pro League avec cette bonne santé financière du club. Au niveau du mercato, assez surprenant, mais la prolongation de 3 ans pour Issam Tej, pas forcément sa prolongation en soi qui est surprenante, mais plutôt les 3 années, quand on sait que c'est souvent assez des courts contrats dans ce milieu-là, on va dire. C'est vrai que c'est surprenant de le voir 3 ans, mais en tout cas, voilà, le projet Issam Tej va durer encore sur le temps. Les départs officialisés, il y en a eu beaucoup. Achraf Safi, Philippe Vucevic, Corentin Boé, Maxence Rizi, Eshmi Belaret et Mounir... Mounir Douiri. Et les arrivées ont été officialisées de Thibaut Valentin de Nancy et Yvan Corchet en provenance de Cournon. Également le départ de Jean-René Ragon qui était le manager général du club. Donc voilà, une petite restructuration dans le board du SCO Handball. Petite info dernière avant de passer à la pause musicale. Pauline Frélon, qui a été une ancienne invitée de l'émission, c'est officiel, elle ne disputera malheureusement pas les Jeux Olympiques de Paris 2024 après le tournoi de qualification olympique de Cheseguet. Est-ce que vous avez d'autres infos locales, messieurs?
Du coup, en parlant des JO, Amandine Brossier qui s'est qualifiée en relais mixte pour les JO aussi. Et malheureusement, je pense qu'elle n'arrivera pas à faire les minima, mais pour concourir sur le 400 mètres en toute seule, mais du coup elle va quand même pouvoir aller au JO de Paris et courir sur au moins un 400 mètres.
Ouais. Et de mon côté, j'ai pour l'UFAB, parce que la saison des pros est finie, mais les espoirs, elles jouaient le Final Four et elles ont perdu 69-60 et après 77-55 et elles finissent donc quatrième.
Voilà. C'est les jeunes du coup de
ouais,
l'UFAB. Très bien. Qui ont moins bien géré donc ces playoffs.
Ouais, le Final Four, mais c'est quand même une d'ailleurs, super saison de.
Alors, je vais peut-être te piéger, mais est-ce que tu sais ce qu'a fait Saumur sur les playoffs dans justement ouais. Cette poule de N2?
Alors là.
On vérifiera l'info peut-être après. En attendant, on va passer à la pause musicale.
Attends, il restait juste.
Oui, dis-moi.
Une info parce qu'on l'a relayé aussi sur nos pages Twitter, Instagram et Facebook. Parce que j'avais partagé un projet aussi lié au JO 2024 et surtout aux Jeux Paralympiques fait par une école primaire de la région où il y a une campagne participative qui avait été mise en place. Il reste 9 jours et l'objectif a été atteint. Maintenant, il reste juste l'objectif bonus en fait qui permettra d'avoir plus d'activités. Donc,
okay.
Le lien est toujours disponible sur nos différentes pages pour les gens qui voudraient participer.
Très bien. Merci Cédric pour ces informations. On va passer à la pause musicale. On va s'écouter The Weeknd, Save Your Tears, et puis on va se retrouver juste après. C'était The Weeknd et son titre Save Your Tears. On est toujours sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site internet www.radio-g.fr ou bien encore sur les plateformes d'A+. De retour en studio avec Faustin, Cédric, Florian et Clément pour revenir sur l'actualité sportive internationale désormais. On va avant ça parler un petit peu de, une fois, on va terminer sur le local avec avec le SCO et on n'a pas évoqué du coup ce qui s'est passé au trophée UNFP. Donc hier soir, on avait trois nommés. Yaya Fofana pour le meilleur gardien, Alexandre Dujeu pour le meilleur coach, Abdelli pour le meilleur joueur de Ligue 2 et aucun de ces trois nommés n'a pu remporter un prix, mais les enjeux ne repartent pas Fanny puisque Johnny et Abdelli sont repartis avec on va dire le petit trophée de l'équipe type de Ligue 2 dans un très beau 11 concocté par l'UNFP. Voilà un petit peu pour les dernières infos et puis on va désormais revenir sur, on va rebasculer sur le foot avec les dernières informations, notamment la Ligue des Champions avec toi Clément. Tu vas nous un peu nous raconter ce qui s'est passé.
Ouais.
Les auditeurs savent peut-être, mais tu peux nous faire un petit rapide rappel des faits.
L'élimination de Paris. J'ai pas trop les mots parce que devant le match j'étais bouche bée. Je regardais. Je me disais c'est pas possible, ce club il est maudit. On n'a pas le droit au bonheur en France. Non mais sincèrement, vraiment, j'étais là devant le match, je voyais les poteaux qui défilaient et puis je me disais bon, c'est ça s'arrêtera jamais. Je sais pas trop quoi dire parce que en fait, il y a sur le contenu du match, il y a pas vraiment Dortmund.
Alors, à la base, tu devais nous rappeler les résultats.
Mais oui, mais je suis du coup Dortmund a gagné 1-0.
Après, je te laisse parler, vas-y.
Dortmund a gagné 1-0 face à Paris et donc
à l'aller et au retour. On s'était pas vu entre temps.
Ah bah oui, c'est vrai. Donc au final 2-0 score cumulé, donc Paris est éliminé et Dortmund file en finale de Ligue des Champions.
Et tu disais donc.
Et je veux bien parler du Real, enfin le score du Real aussi peut-être.
Oui.
Le score du Real, du coup, il y a eu 2-2 au match aller entre Real et Bayern. Et à Santiago Bernabéu, le Real, par je ne sais quel miracle, a encore, l'a encore emporté 2-1.
La panne de la VAR.
Bon, on reparlera, on reparlera de ça après. D'abord, j'ai envie de parler de Paris parce que.
T'es énervé.
Non, mais oui, parce que, on n'a pas le droit au bonheur, comme je dis. On tombe contre une équipe de Dortmund qui était vraiment prenable. Et je sais pas, les clubs français sont maudits. Non mais je suis énervé parce que je me revois au bar en train de voir les poteaux, les bars qui défilaient. Et
serais pas pour Paris par hasard?
Non, je suis pour les clubs français, mais même pour Marseille, j'étais dégoûté. Mais et du coup même si Paris a peut-être pas très bien joué, il y a quand même une part de chance qui a pas été pour Paris et Dortmund a bien joué le coup au final en mettant la baraka et en ayant une action dans le match et en gagnant quoi.
Très bien. Voilà, il était un peu énervé. Quelqu'un veut rebondir, Cédric peut-être?
Non, mais ils se sont vus encore trop gros comme d'hab.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déclarations en amont du match.
Ils sont basés sur le match aller-retour des poules où tu avais une victoire pour un nul. Et sauf que on a revu j'ai revu limite la même équipe que au match aller contre le Barça, limite qu'on a rien à foutre quoi. Enfin
ouais,
clairement c'est
À part Marquinhos
et on parlera pas de numéro 7
non
français.
Puis on parlera pas du gardien aussi.
On va en parler après. Je dis ça, mais on va en parler ça après.
Je trouve.
Oui.
Quand tu sais que Navas, ça y est, il part du PSG, mais quand il était dans les buts, c'était assuré. Et depuis qu'il est titulaire,
que Donnarumma.
Donnarumma, je trouve qu'il a pas son niveau.
C'est une histoire de choix aussi. C'est une histoire de choix malheureusement.
Ouais, mais bon.
Et malheureusement ils l'ont pas respecté. Je suis d'accord avec toi sur Kélian Navas. Ils auraient pu le respecter un peu plus. Mais c'est une histoire de choix à un moment donné. Ils ont vu l'opportunité de faire Donnarumma. À zéro et ils ont foncé dessus parce qu'ils se sont dit que C'est le gardien, en plus, il sort d'un, au moment où ils le prennent, il sort d'un euro.
Il sort de l'euro, ça, il y avait
incroyable, c'est le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Il est, je crois que c'est même le meilleur joueur de la compétition, quasiment.
Ouais, oui, c'est ça.
Donc à ce moment-là, il fonce dessus. Mais sur cette saison, je trouve que on est un peu dur avec Donnarumma parce que il sauve le Paris Saint-Germain à de nombreuses reprises tout au long de la saison.
Notamment sur le match. Voilà. Sur le match, en première mi-temps, il y a Adeyemi qui fait une percée et on oublie tous que Donnarumma, il l'arrête et ça fait 1-0 pour Dortmund si jamais il marque.
Et pour faire ta transition vers le débat prochain, il y a le Kylian Mbappé, sur la double confrontation face à Dortmund, il est inexistant. Il n'y a pas de présence. Il n'y a rien. Il y a aussi un fautif, mais ça je lui en veux un peu moins. C'est Enrique, Luis Enrique qui fait des mauvais choix à l'aller et qui continue de les faire au retour. Donc voilà. Mais après on peut pas parler de malchance. Pour moi, je pense que Dortmund a joué le coup collectivement.
Ouais. Non, mais je suis un peu chaud.
J'imagine.
On avait compris. Mais effectivement, transition trouvée. Merci à toi, Florian.
En tout cas, les poteaux, ils étaient pas carrés.
Non, j'allais en parler, évidemment, quand Clément en a parlé. Effectivement, c'était les derniers matchs de Kylian Mbappé en Ligue des Champions au Parc des Princes. Avec, en tout cas, le maillot du Paris Saint-Germain. Son départ qui a donc été officialisé après, en tout cas par lui-même, après cette élimination. Un départ dans une vidéo sobre, on va dire.
Salut, c'est Kylian.
Mais attends, mais il est avec nous en ce moment. C'est Clément, hein, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas Kylian Mbappé, hein, il n'est pas avec nous. Voilà, officialisation. Voilà, et bon, on va pas revenir sur la vidéo en elle-même, il remercie Panacea, bref. Sur aussi la façon dont il a été, entre guillemets, célébré ou pas par ses supporters lors du dernier match contre Toulouse. Son bilan, surtout, moi, ce qui m'intéresse sur les deux ans de sa prolongation, puisque c'était quand même le contrat le plus important de l'histoire du football à ce moment-là, quand il a été signé, puisqu'après il y a eu tous les contrats en Arabie Saoudite, tout le pouvoir qu'il a eu, toutes les polémiques qu'il a engendrées. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux ans et de ces déboires, j'ai envie de dire.
J'ai envie de dire, là je vais parler sur le terrain. Enfin, on peut dire qu'il a pas été bon, mais c'est quand même le meilleur buteur de la Ligue 1. Il a quand même roulé sur la concurrence en Ligue 1 et même à l'international, parce que il est pratiquement le meilleur buteur tout championnat confondu. Je trouve qu'on banalise trop le fait qu'il mette autant de buts. Peut-être que on l'attendait encore plus fort que ça, mais je trouve qu'il a quand même été toujours à un bon niveau. Peut-être que ces derniers mois, il a peut-être, je pense qu'il avait la tête ailleurs aussi. Enfin, c'est mon impression. Il avait sur le terrain, oui. Et puis il avait un rôle qui n'était pas le sien, je trouve.
Ouais.
Plus de playmaker, d'un gars qui construit, tandis que c'est un joueur de percussion et qui va au but. Et j'ai trouvé qu'il n'avait pas assez endossé ce rôle-là, cette dernière saison au PSG.
Florent, qu'est-ce que t'en penses?
Pour moi, si l'histoire se termine comme ça, c'est de sa faute. C'est que le problème, c'est que on pense tous que c'est un bon communicant, mais malheureusement, je pense qu'en communication, il est malheureusement pas bon. Et c'est quand il veut tout contrôler qu'il est pas bon. Et en fait, hier, le discours qu'il a au trophée UNFP, quand un journaliste lui pose des questions et du coup, il laisse parler son cœur, il avait 100 fois plus d'émotions hier que samedi dans sa vidéo.
Ouais.
Et donc après, pour en revenir sur ces deux dernières saisons, malheureusement, en fait, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est que il a eu un rôle qui n'était pas le sien. Il aurait jamais dû avoir toutes ces décisions-là, toutes ces choses-là en main, qui ont fait que son jeu s'est dénaturé et qui malheureusement le dessert un peu lui, parce que je veux pas dire beaucoup, parce que au final ça, il a ses stats et il a réussi à faire ce qu'il voulait et puis voilà. Mais s'il était si absent ces dernières semaines, c'est parce que lui aussi il a mal géré sa com.
Ouais.
Donc voilà. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un menteur, mais presque, parce que du coup il a menti à plein de supporters et à un club. Alors après, bien sûr, il y a des fautifs dans tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Mais après, sur sa saison, je pense que elle pourrait être encore mieux si il n'avait pas à gérer tout ce qu'il avait fait.
Ouais. Et c'est vrai que souvent, moi, je dis souvent que la communication d'Mbappé, en tout cas, l'opinion publique du sa communication, on va dire, elle est plus positive sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, Mbappé, on voit sur justement 2022 où il y a quelques polémiques juste avant la Coupe du Monde avec le PSG, il annonce un vrai faux départ, etc. Il y a deux trois bouderies, notamment contre Montpellier, des choses comme ça, où là sa cote de popularité elle descend. Puis sur le terrain, Coupe du Monde, c'est le Messi pour beaucoup de Français et c'était exceptionnel. Et cette année, du coup, il a pas pu se rattraper avec avec le football. C'est Eric, un petit mot sur le départ de Mbappé. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 ans ou de ces 7 ans au PSG?
Le problème pour moi, c'est qu'il y a au moins 1 an et demi de trop, en fait.
Ouais, c'est clair.
Oui, c'est.
Parce que lui, il voulait partir 2 ans.
Pour moi, ce contrat, j'aurais jamais dû être signé par aucune des deux parties. En tout cas, on a aujourd'hui la preuve que tout le monde est perdant.
Je pense la prolongation. Il y a eu un gros quiproquo sur les rayonnements, les durées, tout ça. Enfin, ça, je pense, c'est clair là-dessus.
Il y avait un jeu poker menteur, entre les deux parties.
Et le problème, c'est que rien que le début de la saison, ils le savent. De toute façon, ça va se finir dans tous les cas. Alors, on ne sait pas tout ce qui s'est passé en coulisses, et on le saura peut-être jamais, mais il y a sûrement d'autres histoires que voilà. Ces histoires de prolongation qui sont pas forcément toutes clean. Un joueur comme ça, tu peux pas, dès le début de saison, lui mettre la pression en mode, faut que tu signes, et le mettre en dehors. Ça a marché au début quand il est revenu. Mais après, il s'est effondré, quoi. Ouais. Au long de la saison. Et avec un entraîneur, on n'a jamais su réellement s'il s'entendait réellement bien ou pas. On sait pas trop là-dessus. Donc ça met pas forcément en confiance aussi le joueur. Après, est-ce qu'on doit y mettre tout sur le dos en termes d'échec du PSG? Je pense pas.
Non.
Il a sa part sur des fois, sur certaines peut-être aussi interprétation des journalistes de ses propos. Il y a certains journalistes, j'ai trouvé cette année, qui ont bien aimé faire du Mbappé bashing en prenant genre un extrait et puis détournant le truc quand ils cherchaient plus fondamentalement. Ça se finit. Écoute, il aura quand même un des meilleurs bilans au PSG. C'est ce qui restera du club.
Ouais. Faustin. Rapidement.
C'est vrai qu'il a marqué l'histoire du club et de la Ligue 1 même. Et c'est une grosse perte pour le championnat, parce que maintenant, je veux dire, qui sera la superstar de la Ligue 1 qu'on va exposer au monde entier?
Louis Lacazette.
L'année prochaine,
évidemment. Et ça va être aussi difficile pour la Ligue 1 qui va garder peut-être son surnom de Farmers League.
Non, on n'espère pas. Ça se trouve, il va venir à Rangers, justement. Ça se trouve.
C'est le projet.
Non, peut-être pas.
De toute façon, c'est toujours pas où il va, officiellement.
Oui. Effectivement. C'est pas officiel.
Même si...
On a quand même des gros doutes pour la maison
blanche. Même ça, tu vois, enfin, je trouve ça étonnant de la part du club qui va l'accueillir, que ça n'ait toujours pas communiqué maintenant que c'est officiel, ça n'est pas.
Parce qu'ils ont une finale de Ligue des Champions. Ils savent aussi que, en annonçant ça, ça met aussi beaucoup de pression et.
Oui, c'est ça.
Et je pense qu'ils attendront vraiment la finale de Ligue des Champions. C'est pour ça que Mbappé l'a dit après l'élimination d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà pour le dossier Mbappé qui a donc joué son dernier match contre Toulouse. En tout cas, son dernier match au Parc des Princes contre Toulouse dimanche dernier. Donc c'était le multiplex Clément de Ligue 1. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les résultats en sachant qu'il y avait également 2 matchs le vendredi?
Oui, c'est ça. Donc il y avait 2 matchs le vendredi qui opposaient Nice et Le Havre et Brest et Reims. Le premier match entre Nice et Le Havre s'est soldé sur une victoire de 10, 1-0. Et c'est Brest qui fait un peu la mauvaise opération de cette journée, j'ai envie de dire, en se faisant accrocher par Reims à domicile. Ensuite, on a eu un Clermont-Lyon qui s'est fini sur un 1-0 pour Lyon et qui une bonne opération pour Lyon au plus grand plaisir d'Alex.
Oui.
ensuite, Lille s'est imposé à Nantes. Nantes qui se maintient tout de même s'ils perdent 2-1 donc sur leur propre pelouse. Ensuite, Monaco a allé s'imposer 2-0 à Montpellier et s'assure une place en Ligue des Champions. Donc le PSG a perdu un petit peu contre les attentes 3-1 contre Toulouse. Ensuite Marseille s'est imposé facilement 3-1 face à Lorient. Strasbourg l'a emporté 2-1 face à Metz. Et pour finir Rennes et Lens se sont séparés sur un nul 1-1.
Eh bien, merci Clément pour ces infos sur cette 37e journée de Ligue 1. Ce sera le dernier multiplex donc dimanche prochain pour savoir voilà qui ira en Europe, qui n'ira pas, et on verra ce qui va se passer.
Et il y a deux matchs demain aussi qui se jouent, Nice PSG. Oui. Et Reims-Marseille qui est un match très important puisque Marseille peut repasser devant Lyon à l'occasion de ce match.
Et Nice aussi, hein, Nice-PSG, c'est important parce que Nice gagne, ça met la pression sur Brest ce week-end et on peut ne pas avoir Brest en Ligue des Champions l'année prochaine.
On verra ça. Et à noter très rapidement que dans deux jours maintenant, c'est l'annonce de Deschamps pour la liste de l'Euro, donc on reviendra sûrement là-dessus la semaine prochaine, même s'il y a peut-être rien à dire de bien grand sur cette liste.
Bah, pas mal de blessés, quoi.
Oui, ouais. Des blessés, mais je pense qu'il n'y aura quand même pas de surprise. On verra.
Oui, c'est Didier Deschamps. Hein.
C'est Didier Deschamps. Ouais, sur le dernier Euro, il nous a sorti un Benzema du chapeau, donc ça peut t'arriver. On va enchaîner Faustin avec le basket.
Ouais.
Et t'as beaucoup d'actu dans ta besace.
C'est assez chargé. Je vais démarrer par la loterie. La loterie qui annoncera donc les choix de draft qu'auront chacune des équipes, et cette année le premier choix revient à Atlanta qui a un bon coup à jouer pour construire une équipe sur des bases solides. Le deuxième choix revient à Washington, et c'était notre Frenchy Bilal Koulibaly qui était le représentant de la franchise sur place. Le troisième choix revient à Houston. San Antonio ressort avec le quatrième choix pour tenter d'accompagner Victor Wembanyama. Il récupère également le huitième choix de Toronto et ont donc deux choix dans le top 10, de quoi bien se renforcer pour la saison à venir. Et la mock draft a été actualisée récemment, et les deux premiers sont des Français, avec Alexandre Sarr qui joue actuellement en G League, et Zachary Zache qui joue en Betclic Elite, qui sont les deux premiers attendus à ces drafts. Le troisième français, c'est Tijan Salon, le joueur de Cholet, qui a fait une belle descente, qui était attendu dans le top 10 au début de la saison, et qui est maintenant classé 21e dans la mock draft. À voir s'il peut aller décrocher une place un peu plus haut. Sinon,
d'autres infos?
Il y a toujours les playoffs qui continuent de plus belle, et toutes les demi-finales de conférence sont déjà bien entamées. Elles sont presque toutes serrées, sauf une. C'est celle qui oppose Boston à Cleveland. Il y a actuellement 3-1 pour Boston, et le match 5 aura lieu au TD Garden avec un Donovan Mitchell encore incertain. Je donne pas cher de la peau des Cavaliers, malheureusement. La deuxième demi-finale à l'Est oppose les Knicks aux Pacers, et je suis vraiment très surpris du niveau qu'affichent les Pacers dans ces playoffs. Je les attendais pas à un tel niveau, d'abord en sortant les Bucks, certes amputés d'un Giannis Antetokounmpo, mais toujours d'un Damien Lillard. Et dans le dernier match, ils ont réussi à très bien tenir Jalen Brunson, pourtant en feu depuis le début de ces playoffs. Il y a actuellement 2-2 dans la série, et j'ai du mal à savoir qui va l'emporter, même si j'ai l'impression que les Knicks ont tout de même un peu plus la carrure pour aller en finale de conférence. À l'ouest, il y a les deux séries qui sont à 2-2. La plus surprenante, c'est celle opposant Dallas à OKC, car une fois de plus, je ne pensais pas que Dallas pouvait être aussi bon face à cette équipe, malgré un Luka Doncic un peu en dessous de son niveau habituel de saison régulière. Il va en falloir plus pour OKC s'ils veulent... pour Dallas, s'ils veulent espérer accéder à la finale de conférence. La dernière série est à mon sens la plus intéressante et oppose Minnesota à Denver. Alors qu'on pouvait penser au bout des deux premiers matchs que Minnesota allait complètement rouler sur cette série, rouler sur Denver en remportant facilement ces matchs. Mais les Nuggets ont réussi à bien réagir au Target Center à domicile en remportant à leur tour aisément les deux matchs suivants. Une fois de plus, c'est difficile de dire qui va aller en finale de conférence entre ces deux équipes.
Voilà pour ce point NBA. Est-ce que tu as d'autres infos?
Bah ouais, parce qu'il y a aussi les trophées, les récompenses individuelles qui ont été données. Je vais citer les trois principales. C'est tout d'abord le rookie de l'année, qui a été évidemment donné à Victor Wembanyama à l'unanimité. Il rejoint Ralph Sampson, David Robinson, un autre Spurs, Blake Griffin, Damien Lillard et Karl Anthony Towns dans les joueurs élus à l'unanimité en tant que rookie de l'année.
Avec une vidéo très sympa d'ailleurs.
Ouais. Une vidéo de remerciement aux supporters de San Antonio qui était assez émouvante. Un autre Français récompensé, c'est Rudy Gobert, élu défenseur de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. C'est un record égalé avec Dikembe Mutombo et Ben Wallace. À noter que Victor Wembanyama a fini deuxième de ce classement. Et enfin, le MVP, c'est Nikola Jokic qui remporte pour la troisième fois ce titre. Et qui rentre à son tour un peu plus dans l'histoire.
Donc deux Français, Parmi ouais. les, donc, les deux meilleurs défenseurs de
NBA. Un Serbe, encore une fois, trois Européens.
Donc, j'imagine qu'on aura une défense de fer aux JO.
Ça promet.
On reviendra rapidement sur les JO si on a le temps. Mais voilà, on évoquera simplement le parcours de la flamme. Je vais aimerais faire parler de tout le monde avant la fin de l'émission. Donc, Clément, tu vas nous évoquer les résultats de Top 14, puisqu'on s'approche tout doucement de la fin de la saison régulière.
Oui, c'est ça. Il reste trois journées, enfin quatre en comptant celle dont je vais te parler. Donc, je vais parler des principaux résultats. Et le plus important, c'est celui du match entre Toulouse et le Stade Français, où Toulouse va écraser le Stade Français qui était premier avant cette journée, et donc Toulouse qui repasse devant en gagnant 49-18 à domicile. Et il y a eu un autre match très important aussi pour les playoffs de cette fin de saison, c'est Bordeaux-Bègles et La Rochelle qui s'affrontaient à Chaban-Delmas, et c'est Bordeaux-Bègles qui l'a emporté 34-14 dans un match à sens unique où Bordeaux a largement dominé. Au classement, nous retrouvons, comme je disais, Toulouse et le Stade Français dans les deux premières positions. Ensuite, Bordeaux a repris 4 points d'avance sur Toulon. Ensuite, à la cinquième place, nous retrouvons le Racing 92. Et pour clore un petit peu ces playoffs, La Rochelle se trouve en sixième position.
Bah, merci à toi, Clément, pour ce petit point sur le rugby. Quelques autres petites infos concernant le sport. Vous parlez un petit peu de cyclisme avec le Tour d'Italie et le Giro qui se déroule en ce moment même. C'était la 10e étape aujourd'hui et un Français s'est imposé. C'est Valentin, je crois, de son prénom. Paré Peintre qui s'est imposé.
Non, c'est
devant.
Aurélien Paré Peintre.
C'est deux frères. Il y a deux frères.
Ah, ok, d'accord.
Il y a Aurélien et Valentin.
Ah, ok, bon, bah, autant pour moi.
C'est qui s'est imposé devant, juste devant Romain Bardet et son frère qui est cinquième de l'étape. Mais au général, c'est toujours Pogacar qui est devant. Petite information, Jeux Olympiques, c'est assez calme en ce moment. Mais on en sait plus sur le parcours de la flamme qui est arrivé notamment sur nos terres métropolitaines françaises. C'était il y a à peu près une semaine.
C'était il y a une semaine.
Donc à Marseille, flamme allumée dans la Vasque par le rappeur Jules. À Marseille, dans une très très belle ambiance. Depuis, elle fait son petit parcours de chemin. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et elle est actuellement. À l'heure où on parle, elle est en Corse, et oui, dans l'île de Beauté. Et puis demain, elle ira dans les Pyrénées-Orientales. Pour Angers, ce sera le 28 mai prochain. Voilà, un très beau parcours qu'on détaillera peut-être la semaine prochaine. Et justement, le 28 mai, il y aura émission. Donc on verra si on peut faire quelque chose autour de ça. Ouais. Ce sera un très bel événement.
On va la piquer.
Oui, on la ramènera dans le studio. Ça va être pas mal.
Bon, sachant qu'il va falloir la recharger tous les 6 minutes.
Ouais, ça.
C'est pas très écologique, hein, cette flamme, au final.
Ouais.
Pour des JO qui se disaient.
Qui se disaient écolo, oui.
Ouais.
Cédric, très, très, très rapidement, en deux mots, comment ça s'est passé, justement, cette WWE à Lyon?
Bah, écoute, deux jours, enfin, on va dire même trois jours, parce qu'il y avait le dimanche, plus du côté d'Aix. Voilà, mais meilleure audience en termes de public depuis des années sur un show SmackDown, meilleure audience pour le pay-per-view Black Dash. Les Français ont répondu présent.
Ouais, le public.
Le public, enfin l'ambiance, les Américains, voilà, ils étaient sur le cul. Et pour une fois, ça fait plaisir parce que le public américain. Mais je peux les comprendre aussi parce que eux, c'est tellement facile de voir des shows de la WWE au-delà des prix, hein, mais. Oui. Tu le vois facilement à la télé, tu peux voir les house shows, enfin quand ils veulent quasiment. Je comprends qu'eux, ils ont plus cette énergie, tu vois, quelque. Sauf que là, il y a eu des clappings, il y a eu des reprises des thèmes.
Ouais.
Il y a eu la reprise du mouvement de la cake pop avec les téléphones, tu vois. Et là, maintenant, les Américains sont en train d'essayer de nous copier là-dessus, tu vois.
Ouais, magnifique.
Donc c'est très bon signe pour un retour, pour un gros show, sûrement l'année prochaine.
Ça marche. On espère que le catch effectivement reviendra en France. On va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite, c'est Imaginaire qui prend l'antenne et qui prend
la convention,
qui prend le relais
ce week-end.
effectivement, qui seront en convention ce week-end. On va vous laisser avec la suite des programmes et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.